Erev Tov, les Koulam. Erev Tov, on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et Besha Tova ou Mutzlachat, nous sommes arrivés au chapitre Yud Tet, au verset Tet. Verset Tet. Chapitre Yud Tet, verset Tet. Chapitre 19, Pasuk 9.
Ah, c'est la page 87.
Et il se trouve que dans certaines éditions, c'est la page 87 par hasard. C'est-à-dire... Alors, on y va. Donc, on a dit, mon cher Abeno a présenté au peuple que Dieu veut leur transmettre par lui la Torah. Le peuple a dit, nein. Ils ont dit, s'il veut qu'ils viennent. Et à ce moment-là, Dieu répond, eh bien, très bien, je viens. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, ועבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. Tout ça, on avait vu la semaine dernière. ויגד משה את דברי העם אל השם. Ok. Donc très bien, Moshe redonne au peuple la nouvelle version. Dieu va venir. Alors, comment ça marche cette histoire? ויאמר השם אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר וכיבסו סבלותם. Aha. Donc Dieu nous dit qu'il faut se préparer combien de temps? Ah bah non. Ah bah non. Mais Rabotai, Dieu il dit combien de jours?
Deux jours.
Vekidashtam ayom umachar. C'est-à-dire que Dieu il donne deux jours de préparation. Exactement, exactement. Alors, deux secondes. Hein? Ayom ou Macha, c'est-à-dire que vous devez vous préparer aujourd'hui et demain. C'est tout. Donc, ça fait que deux jours de préparation.
Avec hier, ça fait trois.
Avec hier? Pourquoi hier? T'as vu? Eh, c'est pas de ma faute. Hein? T'as vu? Exactement. Donc, Vekilastam, Ayom ou Macha, Vekibesu, Simlotam. Pourquoi il faut les Chabes Smalot?
Ça reçoit de la
Touma?
Non, il faut être propre.
Hein. Ben, pas chaud, là. Des fois, je pose des questions qui sont pchoutotes. Tu viens de passer combien, je sais pas combien de jours dans le désert. Vechipso, simlotam. C'est pas chaud. Ils vont pas laver leurs vêtements tout le temps. De là est venu le minhag qu'on doit mettre des beaux vêtements propres pour Shabbat. Ah, ça nous paraît évident. Alors, voilà. Tu peux les ramasser et ne pas les oublier. La dernière fois, tu les as oubliés. Mais tu les as retrouvés, donc ça fait plaisir. Tu les as retrouvés, donc. C'est beau. T'as vu ou pas? Donc, de là est venu le minhag et la halakha que le Shabbat, eh bien, on doit être bien habillé. On doit être propre, on doit s'être préparé. Machon? Bon, ça, c'est pas shoot. Là où ça devient compliqué, c'est que, eh bien... entre l'ordre de Dieu et l'ordre de Moshe, il y a un bug. Eh oui. Veyun nechonim la yom ha-shelishi, ki bayom ha-shelishi yered Hashem leinei kol ha'am al har Sinai. Le projet, c'est que vous vous préparez pendant deux jours, le troisième, je viens. Bon. Vigbalta et ha'am saviv lemor, et tu dois mettre une barrière pour le peuple. De quoi? Les morts, ils chameront la chème à l'autre bahar, ou noga bekatse, ou negeo asira bekatseu, kol a noga bahar mot yumat. Donc personne n'a le droit de monter sur la montagne. Celui qui monte, yumat. Yumat, bide shamaim. C'est pas que Moshe doit le tuer. C'est Dieu qui s'en charge. Oh!
De la toucher.
De la toucher, donc, bah oui. Kol a noga bahar. Ça veut dire quoi, kol a noga bahar? C'est pas. Non mais, je veux bien, mais comment ça marche? C'est pas... C'est une montagne.
Ça, j'arrive pas.
C'est une montagne, une montagne. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, on a mis une barrière, je sais pas exactement à combien de mètres du premier dénivelé, ils ont mis la barrière. C'est-à-dire que voilà, tu peux pas mettre le pied au-delà de la barrière. Archav, deux secondes. Donc ça veut dire que cet endroit-là, il est... plus que kadosh, il est dangereux, on peut pas y accéder. Parce que c'est pas notre niveau. Sheela, aujourd'hui... Tu vas te balader au Sinaï, quel que soit l'endroit. On a vu la semaine dernière, mais quel que soit l'endroit, si tu vas te balader aujourd'hui au Har-Sinaï, dans toutes les versions du Har-Sinaï, c'est Beseder, c'est l'Obeseder Alpi Alakha, c'est Beseder Gamour. Est-ce que tu dois faire une préparation de Kdusha particulière?
Non.
Non, c'est redevenu une montagne Stam. Ah ah.
En parenthèse, c'est ce qui est fait là-bas.
De quoi?
On peut pas y aller.
Ah, on peut pas y aller?
Ouais,
ça a toujours été comme ça ou? Ouais. Bon. Non, Alpi Alakha, il n'y a pas de problème. Parce que c'est redevenu une montagne normale. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cet endroit-là ne vient pas mettre en place Kdushat HaMakom. On aurait pu penser que Har-Sinaï devient l'endroit de la relation avec Dieu. Non, Tshuva, lo. Il n'y a pas de Kdusha Behar-Sinaï. Yesh Kdusha Behar-Amoria, au mont du Temple à Jérusalem. Ça, c'est Kdushat HaMakom. Mais là, on ne met pas en place la dimension de la sainteté de l'endroit, on met en place la dimension de la rencontre entre Dieu et l'homme.
Une petite note, c'est que moi, je l'ai escaladé avec les marches, et les Arabes, ils l'appelaient le mont Moussa. Le mont Moussa,
parce que Moussa, c'est Moshé, nous. Chéyé, si c'est là-bas, il faudra que tu t'arranges avec Shabtai. C'est ça. Ok. ולא תיגע בו יד, כי סכל יסכל או ירו יירא אם בהמיים איש לא יחיה, ומשוך היובל בהמה יעלו בהר. Donc tant qu'on est là, autour de la montagne, personne n'a le droit de la toucher, sababa. וירד משה,
אה? כל הקידי.
כוא? כי סכל יסכל או ירו יירא אם בהמיים איש לא יחיה. Personne n'a le droit de monter. Si tu montes, tu seras lapidé.
Hein?
La première fois, c'était Bidé Shamaïm. Maintenant, il y a une deuxième indication que si tu vas et que tu touches l'otigabo yad, la première fois, c'était Nogea, Baregel. Là, c'est imtigabo yad, c'est comme si tu levais la main sur la sainteté. Alors, on s'occupera de toi, pas seulement Bidé Shamaïm. Et là, Moshe, il s'occupera de toi. Maintenant, là, on met en place une séparation énorme entre Dieu et l'homme. Semble-t-il que pour l'instant, l'homme, il n'est pas capable de ne pas avoir cette azara. Nahon, c'est pour montrer qu'il y a une distance entre le créateur et la créature. Même s'il y a rencontre, il doit quand même y avoir distance. C'est-à-dire ? Alors très bien. Vayered Moshe Minahar, Elam, Vayikadesh Otam, Vayichabesu, Simlotam. A priori, tout se passe bien. Sauf que, Vayomer Elam, Evo nechonim lishloshet yamim al tigeshu Elisha. Donc il y a deux choses que Dieu n'a pas demandé. La première, c'est Eyu nechonim lishloshet yamim et non pas deux jours. C'est-à-dire Dieu il a demandé deux jours de préparation et lui il a dit préparez-vous pendant trois jours. Makara.
Non, est-ce qu'il y a aussi le temps de descendre?
Quoi?
Nous. C'est dans le troisième jour.
Nous.
Le troisième jour, à partir du moment où il se trouve.
Non, ça ne marche pas dans ce que tu me dis. Ouais. Parce que ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, si tu comptes en plus la descente, ça devrait être encore plus rapide.
Ouais, c'est vrai, effectivement.
Non, donc ça ne marche pas. C'est, Dieu, il avait dit, préparez-vous pendant... Et puis, ça prend pas si longtemps de descendre de la montagne. C'est le Mont Sinaï, ce n'est pas l'Everest hein, non plus. Voilà, Dieu, il avait dit à Yom Macha, et lui, il a dit trois jours. De là, nos sages...
Oui.
Non, c'est Evu Nechonim, Lishloshet Yamim, Atel Tzrim Liot Bematsav Shel Nechonim pendant trois jours. D'ailleurs, halakhiquement parlant, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on admet que Mahamad Har-Sinaï a eu lieu quel jour? C'est une grande marloquette. Quel jour a eu lieu Mahamad Har-Sinaï? On est arrivé Rosh Chodesh. On avait vu ça la semaine dernière. Le 2, c'est le jour où Moshe leur a dit. Quoi? Leur a dit quoi? Leur a dit ce que Dieu leur a dit, à savoir Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, Am Sgulat, ce que tu veux. Et après, on rentre dans ce qu'on appelle, nous, dans la halakha, Shloshet Yemea Agbala. Ok? Shloshet Yemea Agbala, c'est le 3, le 4 et le 5 Sivan. Où c'est les 3 jours de préparation. Et donc, d'après nous, ce qu'on fait à la halema, c'est. C'est le 6 Sivan qu'il y a eu Mahamad Har-Sinaï. D'accord ? C'est ce que nous, on fait. Shavuot. Hein ?
Qu'est-ce que vous dire, on fait ?
Ben, c'est ce qu'on fait dans la halakha.
Shavuot, il n'y a pas écrit qu'on fait Shavuot parce que c'est le jour de la Torah.
Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on fête le Mahamad Arsinaï. J'ai pas parlé du don de la Torah. J'ai dit le Mahamad Arsinaï, on le fête le 6 Sivan. Et Shavuot, c'est quoi ?
Ben, je sais pas, il y a tout dans la Torah, cette semaine après le Maharat et Shabbat, donc c'est cette semaine.
Ouais.
Voilà, t'as pas écrit que c'est le...
C'est pour ça que j'ai pas parlé. Donc j'ai pas parlé, tu remarqueras que je n'ai pas encore ni parlé de Chag HaShavuot, ni parlé de Chag HaBikurim. Qu'on fête Mahamad Arsinaï, j'ai pas parlé ni de Shavuot, ni de Chag HaBikurim. Tu remarqueras. Je suis d'accord avec toi, je sais ce que tu vas me dire, je commence à connaître les personnages. Et je sais que tu as raison. Je dis simplement que volontairement, je parle ni de Chag HaShavuot qui vient servir de conclusion à Pessah, et je ne parle pas non plus de Chag HaBikurim. Je parle de, au niveau de la halakha, nous fêtons le dévoilement du Mont Sinaï. Tu l'as appelé Shavuot, toi, moi je n'ai pas parlé de Shavuot. Il se trouve que ça va s'appeler Shavuot dans la Torah. Et il se trouve qu'en fait, on va faire correspondre le moment que la Torah nous appelle Chag HaShavuot comme étant le jour de Mahamad Arsinaï. C'est ce que la tradition juive va faire correspondre l'un et l'autre. Maintenant, moi ici, je parle que du Mahamad Arsinaï. Je dis dans la tradition juive, tu vas appeler ce jour-là Chag Matan Torah Tenu dans ta tefila, et dans les Kriyot HaTorah de Shavuot, on va parler de cet événement-là. Donc je dis simplement, au niveau de la halakha, on fête Chag HaShavuot le 6 Sivan. Et il se trouve qu'on lui donne comme signification eh bien, le moment où Dieu s'est révélé à nous. Là où ça me pose problème, c'est que le Talmud nous dit que ça ne s'est pas passé le 6 Sivan. Ça s'est passé le 7. Ah, c'était le deuxième jour de Khoul. Bien fait. Ça s'est passé le 7. Et le Talmud, il fait un calcul tout simple, hein, un calcul de maths pashut, que si on est sorti le jeudi et que la Torah elle était donnée Shabbat, eh bien, ça ne peut pas être le 6, c'est le 7. Ah non, il te dit, le Talmud te dit, on a une massorette, qu'on est sorti d'Égypte le jeudi, dans la semaine. Le jour de Pessah, c'était le jeudi. Massorette. Ah, comment, tu veux que je te le prouve ? Je peux pas te le prouver. C'est comme ça, les gens qui sont sortis d'Égypte, ils savaient c'était le jeudi, et ils ont dit à leurs descendants, c'était le jeudi. C'est ça ? Et de la même façon, on a une massorette, que Mahamad Arsinaï, ça a eu lieu Shabbat. Et donc après, bah, tu fais un petit calcul, en termes de journée, de calendrier, bah ça ne peut pas tomber le 6, ça tombe le 7.
Alors, pourquoi on ne fait pas le 6 ?
Alors.
Attends, je vais rentrer.
Oui.
Cette semaine complète, comment tu tombes sur un
Shabbat
alors que
tu es
parti d'un jeudi ?
Si tu es parti un jeudi, et que tu fais le lendemain, tu comptes cette semaine,
vendredi.
Donc ça veut dire qu'à la fin de la septième semaine, c'est vendredi soir. Vendredi, c'est Shabbat. Shabbat. Bah, c'est ce que je viens de dire. Dimanche. Quelqu'un a parlé de dimanche ? Quelqu'un a parlé de dimanche ? T'es pas là, hein ? Quelqu'un a dit, j'ai pas parlé dimanche. On n'a pas parlé dimanche. J'ai dit Shabbat. Ça y est ? Le carton rouge, hein ? Je dis simplement que quand on fait le décompte du calendrier, des dates, ça nous amène au 7 Sivan. Et en fait, oui.
Ça marche pas par date.
Quoi ?
Ça marche pas par date. Ça dépend si c'était des mois de 30 jours.
Ah, ben c'est très bien. Alors, ne me dis pas ça marche pas par date. Dis-moi, ça marche par date, mais il y a une kushia.
Non, ça marche pas par date. Cette semaine.
Mais j'ai pas de problème. Mais c'est cette semaine, à un moment donné, c'était une date quand même. Je comprends, vous voulez vous offusquer sur des choses que vous êtes d'accord. C'est stam pour le kiff. C'est-à-dire, on est tous d'accord que le moment du Mahamad Arsinaï, à l'époque de Moshe, il a bien eu lieu. Oui, jusque-là, on est d'accord. Et le jour où il a eu lieu, c'était un jour. Et ce jour-là, c'était bien une date. C'est tout ce que je dis. Ça a l'air. Maintenant, si on va compter, on est sorti d'Égypte le 15, Nissan. Parce que là, c'est bon, c'est pas. Je dis, j'affabule pas. Bah, le 15 Nissan, tu lui rajoutes 45 jours, tu vas arriver à combien ? Si tu rajoutes 45 jours, bah, tu vas arriver au premier Sivan. Oui, non, oui, vous êtes avec moi ? Bah 15 pour finir le mois de Nissan. Et ensuite 30 pour terminer le mois de Iyar. Ah, et là, tu amènes ta kushia. Donc, dis-moi, j'ai une kushia.
Oh !
Et ta kushia, c'est de savoir est-ce que c'est un mois de 30 jours ou est-ce que c'est un mois de 29. Oh ! Ça, c'est une bonne kushia.
Le problème grave, c'est que les calendriers n'existaient pas à l'époque.
Et pourquoi pas ?
Ah non, non, il n'y avait pas les calendriers.
Ah, tu dis le calendrier des PTT, il n'existait pas.
Non, le grégorien.
Mais qui t'a parlé du grégorien ? T'as le grégorien, il y a dimanche, je sais pas ce que vous avez mangé ce soir. C'est Rosh Chodesh, c'est Motsei Rosh Chodesh. Moi, j'ai fait une raclette avec les enfants, l'Irvod Rosh Chodesh avec des crêpes et tout, la folie. Mais je sais pas ce que vous, vous avez mangé. En Bota, il n'y a ni Grégoire, ni Grégor, ni rien. Rien du tout. Ça a l'air. Et après, tu me dis, les gens, ils me font perdre du temps dans le chiour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tom, en Bota. Oui, j'avoue que c'est quelque chose de terriblement difficile. C'est fantastique. J'étais Shabbat et chez un ami et il m'a raconté comme quoi il est en vicouard terrible dans sa famille pour les dates d'anniversaire. Parce qu'ils font les dates françaises. Et lui, il dit il faut se battre. Il dit on a un calendrier. Et puis ils lui ont répondu ouais, mais on connaît pas toujours les dates, machin. Il m'a dit mais qu'est-ce que je peux leur répondre ? Je leur ai dit bon, bah, d'abord. Rien n'empêche d'apprendre, et surtout n'importe quel téléphone, tu peux avoir une application calendrier hébraïque, machin. Et je lui ai dit, et Chutz Mizé, demande-leur, pour la Iloula de leurs grands-parents, machin, ils font la date hébraïque ou ils font la date Goy ? Ils fêtent Pâques ou ils fêtent Pessah ? Elle me dit, non, pour la Iloula, ils font truc. Alors je lui ai dit, ok, alors tu veux que je te dise ce qu'il faut leur dire ? Pour qu'ils s'arrêtent complètement et disent « Ah, j'ai compris, dis à ta famille, dis-leur, ah, j'ai compris, vous êtes donc Ashkenaz, pour fêter la mort, vous faites le calendrier juif, vous êtes kiffant de la mort, donc ça, vous kiffez le côté Ashkenaz de la rastratitude, et quand il s'agit de fêter les anniversaires, vous êtes goy. » Et là, ça va bien les énerver, et donc, ils feront les anniversaires en juif. C'était une plaisanterie. Parce qu'on ne sait jamais maintenant, aujourd'hui. Ça a l'air. Mais qui te sont, t'as vu ? Bon, ça va, les jours, les dates, Bekitsour, il y a une grande machloquette, est-ce que le mois de Iyar, cette année-là, il était Malé ou Chaser ? C'est un grand débat dans le Talmud, à savoir que lorsqu'il est un mois, lorsqu'il est Malé, ça veut dire qu'il est Mashmaouti. Alpi à Kabbalah, Chodesh Malé, Ze Chodesh Yeshbo Itgalut Melea, qu'il y a un dévoilement complet. Oui ? Oui, bien sûr ! On pourrait le savoir sans aucun problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de savoir qu'est-ce que ça représente pour nous. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, puisqu'on a un bug d'un jour, eh bien, ça nous va très bien, puisqu'on sait que ce bug d'un jour, il est réglé par le fait que Moshe osif yom midaato. Et là, il va falloir essayer de comprendre pourquoi, comment, qui que quoi. Pourquoi Moshe, il a rajouté un jour ? A priori, il n'y a pas de raison. Mais pour comprendre pourquoi Moshe il a rajouté un jour, il faut comprendre Birklal pourquoi il y a eu besoin de ces 49 jours, enfin de ces 50 jours. Pourquoi est-ce que dès la sortie d'Égypte, on sort, on arrive Miram Eses Sukkota, et boum à Sukkot, Dieu il nous fait Mahamad Arsinaï, Lamallo. Alors vous le savez, je ne vous apprends rien, d'après la tradition d'Israël, il fallait se nettoyer un petit chlouk. Se nettoyer de quoi ? Eh bien de l'Égypte. Se nettoyer de l'Égypte. Or, d'après Chazal, on était descendu au 49e degré d'impureté de l'Égypte, ce qui veut dire, ça ne veut pas dire grand-chose quand on n'y comprend pas grand-chose, mais ça veut dire tout simplement qu'on était des Égyptiens jusqu'à la moelle. C'est-à-dire, il faut apprendre à redevenir hébreu et se déségyptianiser. Ça prend, semble-t-il, 49 jours pour se déségyptianiser, pour passer des 49e degré d'impureté au même tête Sha'are Bina, pour atteindre les 49 degrés de connaissance, de discernement. Ok ? Même tête, Sha'are Bina. En vérité, il n'y en a pas 49, il y en a 50. Mais ce dernier palier de Bina, Ne'elam Mi'itanu. On ne le connaît pas, on n'y arrive pas. Chutz, nous dit le Talmud, Mi'moshe. Shehu Hacham Mikol Adam, avant Shlomo. Et donc Moshe, lui, Niglalo. Achar Noun. Moshe, lui, il est arrivé au dévoilement du Noun. Et donc, Moshe, il dit, moi, je ne peux pas recevoir la Torah qu'à 49 degrés. Moshe aussi fiyom mi da'ato. Mi koach da'ato. C'est pas il a eu envie. C'est je peux pas faire autrement, les gars. Moi, je suis désolé, je suis obligé de monter au Noun. Je peux pas ne pas monter au Noun. Je suis obligé de monter au Noun. Donc, moi, je monte au Noun.
Mais je comprends pas, lui, il peut pas être au Noun alors que les autres, ils sont pas encore.
Comment ça, il peut pas?
Lui, il est déjà.
Eh ben oui, c'est ça. Ce que tu dis, c'est le drame moïsique. Je sais pas comment on dit, mosaïque. Le drame mosaïque. C'est le drame de Moshe. Toute sa vie, ça a été ça. Qu'il est là et eux, ils sont là. Nachon. Maintenant, t'inquiète pas. Moshe aussi fiyom midato, dans la tradition juive depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui, on est redescendu à 49. Et donc, bien que Mahamad Har Sinai ait eu lieu le 7, nous on le fête le 6. Ça donne ? Capiche ? Sauf quoi ? Mais non, on fête aussi le 6. Mais ça donne, non ?
Si j'ai bien compris, c'est parce qu'on
n'est
pas du niveau du 50.
Exactement. Ok ? D'accord. Yofi.
Il aura toujours un niveau qui sera supérieur aux autres.
Ou alors on aura grandi. On verra. Ça va ? Tov. Donc, très bien. Alors maintenant qu'on est là, tout va bien. Vaïe, Bayer, Machlichi, Bayer, Tab.
Non, 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 tu n'as pas expliqué pourquoi il avait ajouté l'interdiction de.
C'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi. Autant pour moi. Il y a marqué Al Tikshu El Isha. Al Tikshu El Isha. Ne soyez pas avec vos femmes pendant 3 jours. Lama.
Eh bien, c'est simple. Parce que du point de vue fertilité, les spermes et les ovules durent 3 jours et puis après ils meurent.
Et alors ?
Hein ? Alors ? Eh bien, pour ne pas féconder.
Et pourquoi pas ?
S'il a rajouté un jour.
Et pourquoi pas féconder ?
Parce qu'ils ne devaient pas être ensemble, les hommes.
Et pourquoi pas ? Alors, l'idée, elle est bonne, mais il faut la creuser comme il faut. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème de Shlosha Yamim chez le Prisha, c'est dans la mesure où à partir du moment où un homme il a une relation avec sa femme, eh bien, elle peut avoir des pertes vaginales pendant 3 jours. Okay ? Ce qui peut la rendre tméa. Et donc, comme on veut que personne soit tamé à ce moment-là, alors, pendant 3 jours, on se sépare. C'est-à-dire, maintenant, qui va se séparer ? Tout le monde. C'est-à-dire tout le monde, y compris Moshe. Ok ? Le fait donc que Moshe se sépare de Tzipora à ce moment-là, c'est pas un problème. C'est comme tout le monde. Le problème, il va être après, quand il va être donné la permission aux autres de retourner chez leur femme, qu'est-ce qui va se passer avec Moshe ? Mais ça, on verra plus tard. Donc, Al Tikshu Elisha. Vaï bayom ha-shelishi, biyot ha-boker, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה. Oui. J'ai pas compris quel est ton problème. Ah, parce qu'il y a marqué Vaïe Bayom HaShlishi.
Oui.
Il y avait ça, Vaïe Bayom HaShlishi. Après les 3 jours de préparation de Moshe, Dieu il arrive. Et il commence la pyrotechnique. La question c'est de savoir pourquoi on a besoin d'autant de pyrotechnique.
C'est comme un signal, j'arrive.
Oui, mais bon, il a besoin de ça.
Non, mais pour
le peuple. Arrête, Besofo Davar.
C'est pour le peuple.
Attends 2 secondes. Mais même le peuple, il va recevoir la Nevoa, le peuple. Ouais. Chaque Navi veut Navi. Avant qu'on lui parle, on fait de la pyrotechnique ?
Non.
Pourquoi est-ce que là on te dit Vei kolot ubrakim ve'anan kaved alahar ve'kol shofar chazak me'od. On a besoin donc de kolot, brakim, ve'anan. Alors kolot, zema, ze'ashmiya, ve'brakim, ze'a, re'iya. Ok ? Donc ça veut dire que la névoie, c'est gam kol ve gam reiya. Comment est-ce que de manière générale, les prophètes y reçoivent le dibour d'Akadosh Baruch Hu ? Quand ils sont de niveau moyen, ils reçoivent le dibour. Ken ? Dvar Hashem el Be'eri anavi. C'est-à-dire, Dvar Hashem, c'est dibour. Dibour, ça s'entend. Quand tu es Bemadriga et Liona, eh bien, tu reçois Chazon Ishayahu Asher Chaza, Benamot, Asher Chaza. al Yehuda v'Yerushalayim. Donc c'est chazon. Chazon, c'est une vision. Donc, en fonction du niveau de dévoilement, yesh kol v'gam barak. Et pourquoi tzarich anan? Qu'est-ce que ça fait le anan? Ma c'est aussi anan.
Anan, c'est le nuage.
Ouais, ça fait quoi?
C'est
le nuage. Oui, toi, tu l'as vu? Toi, tu l'as vu?
Ouais. Mais eux, ils voyaient.
Ah, eux? Non, si, on le voit souvent.
Non, j'ai dit souvent dans...
Ah, dans la Torah, dans la Torah. Mais pourquoi est-ce que justement... Bah, t'as raison, mais moi je veux qu'on aille plus loin dans le raisonnement. Ok, mais pourquoi Dieu il a décidé que quand il fait résider sa présence, c'est un âne? Il aurait pu choisir autre chose. Oui, mais tu comprends qu'il aurait pu se cacher, il aurait pu dire écran noir, j'en sais rien. Alors c'est ça que je pose comme question. Non, mais tu comprends ma question. Ma question c'est pourquoi Dafka un âne, un nuage, une nuée, et pas autre chose? Je comprends très bien qu'il doit se dévoiler dans quelque chose qui est perceptible. Mais je demande pourquoi, Dafka, ça? Eh bien, ça se transforme. C'est un âne. Anan, c'est un âne. Et là, anan, c'est la nuée. Hein? Alors, c'est pas de la pluie, justement. Après, mais là, c'est pas de la pluie. Ah, anan, rabotai, c'est de l'eau.
C'est du brouillard.
C'est du brouillard, exactement. C'est du brouillard, c'est-à-dire que ça... Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je n'arrive à distinguer rien du tout. C'est-à-dire que le anan, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement meurpal, arafel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'arrive pas à distinguer. Eh bien, quand on parle du dévoilement divin, c'est évident que c'est quelque chose qui n'est pas distinguable mamash. Zéakol meouchad. C'est tout est uni dedans. C'est une grosse soupe. On n'y comprend rien. Nahon. Parce que nous, on n'arrive pas à comprendre véritablement la dimension de Echad. D'accord? Et donc maintenant qu'on a ça, yesh kol shofar chazak meod. Waouh, 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 nous dit Chazal. D'où il vient ce shofar? Zéou. C'est la corne droite du bélier de la Akedat Yitzhak. Et la corne gauche, on la garde. Pourquoi? Pour que le Rav Goren il puisse la sonner quand il arrive au Kotel. Quoi? Est-ce que c'est vraiment la corne gauche, machin? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cette corne gauche, nous dit Srazal, c'est la corne qui sera utilisée dans... Vaya bayom ahu yittaka beshofar gadol, vayu haovdim beretz ashur vanidachim beretz mitzrayim veishtachavu lehar Hashem v'Yerushalayim. C'est-à-dire le son du shofar du kibbutz galouyot par excellence, ça sera la corne gauche du bélier de Yitzhak. J'ai envie de voir dans le son du shofar du Rav Goren cette corne gauche. Mais ça, ce n'est que mon avis.
Parce qu'il y en a eu beaucoup,
entre-temps. De quoi? Des sons de shofar? Oui, évidemment, non mais hein, d'accord, mais attends, il n'y en a pas eu beaucoup des sons de shofar qui résonnent aussi avec mamash, la notion de kibbutz galouyot. Ouais, mais... Je ne parle pas du shofar qu'on sonne à Rosh Hashanah tous les ans, parce que là, dans le Navi, on te parle de Vaya, Bayom Ahu Yitaka Beshofar Gadol, et qu'est-ce qui va se passer? Vaya, Ovdim Be'eretz Ashur, Vanidachim Be'eretz Mitzrayim, Ve'avon Veshtachavu Ba'ar Hashem Yerushalayim. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est kibbutz galouyot. Donc si on parle d'un shofar qui a sonné et fait écho à un véritable retour du peuple juif, particulièrement Be'ar Hashem Birushalayim, sur la montagne de Dieu à Jérusalem, eh bien, j'ai envie de le faire correspondre, et je pense que je ne suis pas loin d'avoir raison, avec le son du Rav Goren, quand il fait sonner le shofar Be'ar Habayit, lorsqu'il dit « Le monde du temple est entre nos mains ». Bon, la vérité, c'est que le shofar, il a été sonné en dessous de la montagne, au Kotel, mais ça marche aussi. Quoi, le shofar ou la montagne? Ah oui, ben ça, on a déjà parlé, hein, qu'est-ce que je te dis? C'est-à-dire, Tov, Vayetse Vayotse Moshe El Etaham Likrata Elohim Mina Machane, Vayetiatsevu Betartit Ahar. Donc tout le peuple est prêt en bas de la montagne, Vahar Sinai Ashan Kulo Mipene Asher Yarad Alav Hashem Baesh, Vayal Ashano Ke Ashan Akivshan. Et là, on a un nouveau motif qu'on n'avait pas avant, c'est le feu. Il y avait le hanan, et maintenant il y a le feu. Le hanan, c'est l'eau. Le feu, c'est le feu. C'est pas censé coexister. Sauf quand on est à Kadosh Baruch Hu et qu'on fait l'unité des valeurs. Donc on est en train de faire face à un dévoilement de l'unité par excellence. Alors que faire maintenant ? Vaikol la shofar olav chazak meod, Moshe yedaber va Elohim ya'anenu bekol. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Vayered Hashem el Arsinai el Rosh Ahar, Vayikra Hashem le Moshe el Rosh Ahar, Vayal Moshe. Là, Moshe, il monte. Il monte où ? Mais pas en haut. Il monte un petit chlouk.
Rosh Ahar.
Hein ?
C'est quoi Rosh Ahar ?
Non, Vayikra Hashem le Moshe el Rosh Ahar. Vayal Moshe. Est-ce qu'il est monté jusqu'au Rosh Ahar ? Od lo barur. Vayomer Hashem el Moshe, red. Aed Baam. Pen yersu el Hashem, lirod vedafal menurav. Il dit non, tu ne montes pas jusqu'en haut. Red. Red, pourquoi ? Parce qu'il faut que tu restes quand même pour faire la jonction avec le peuple. וגם הכהנים הניגשים אל השם נתקדשו, פן יפרוץ בהם השם. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on parle de qui là ? Des Kohanim. Mais il y a encore Kohanim ? Il n'y a pas encore de Kohanim.
Il y avait le Kohen et son fils et ses fils.
Ils ont déjà été Kohanifiés ?
Ils étaient là, en tout cas.
Non. Qu'il y avait Aaron, Elazar, Itamar, Nadab, Avihu, ça je suis bien conscient. Mais je...
C'est pour nous dire que même les Kohanim...
Non mais j'entends bien, ce qui me dérange, c'est pas ça. Ce qui me dérange, c'est qu'on va entendre parler des Kohanim que dans la parasha de Tetzavé. Mais c'est donc d'où mon problème. Parce qu'il n'y a que dans la parasha de Tetzavé qu'il est coulé Alma, se passe après le Mahamad Arsinaï. Là, c'est pas une question de Vaudor ou pas Vaudor. Parasha de Tetzavé, c'est là où on va nous dire que tu vas prendre à Aaron et ses enfants les Chahanoli. Donc c'est... Ah, il a fait. Donc, tu as compris de qui on parle. Donc, c'est qui les Kohanim à la base ? Non. C'est comme ça a toujours été dans toutes les cultures, y compris en Égypte, à savoir les premiers-nés. Ça a toujours été comme ça, et dans le peuple juif également. C'est eux qui étaient censés être les Kohanim, faire la jonction avec Akadosh Baruch Hu. À cause de leur faute dans le veau d'or, alors... Ce que disent nos sages, eh bien, Aaron va prendre le relais avec ses enfants. Maintenant, moi je veux bien, mais si on nous dit, on regarde, regardez ce que dit Rashi, « Ve'alita ata ve'aaron immar ve'akohanim » Oh oh, qu'est-ce qu'il y a marqué juste après ? C'est le verset juste après, hein, Ken ? Je reprends juste le verset. « Va'amer Moshe el Hashem, lo yukha la'am la'alot el har sinai, ki ata edota banu lemor, akbel et ha'am vekidashto, ve'ata, va'yomer elav Hashem, lech red, ve'alita ata, ve'aaron imach, ve'akohanim, ve'aham, ali ersu la'alot el Hashem, pen yifrotz bam. » Si Aaron fait déjà partie des Kohanim, alors ça ne marche pas. Donc de là, on a la preuve que les Kohanim, ce n'est pas encore Aaron et ses enfants. C'est Nadav. Nadav, oui. Nadav, le fils de Aaron. Oui. Ça, ça, c'est bon, ça passe. Hein ?
Aaron, il est Bechor.
Ah bon ?
Non, je sais pas.
Bah non, il y a Myriam. Ah. Tu l'as oublié ? Tu te rappelles pas ? Hein ? On a parlé Shabbat. Bekitsour, donc, Zéa Kohanim ve Aaron. Et là, on est prêt. Tout est mis en place, la panoplie est mise en place. On peut y aller. Va Yered Moshe. El ha'am va yomer alehem. T'as vu, on est prêt ? Yala. Va yedaber Elohim et kol ha'devarim ha'ele lemor. Et là, on commence les 10 commandements. Aseret ha'dibrot. La question qu'on doit se poser tout de suite, c'est pourquoi on a besoin de Aseret ha'dibrot ? C'est-à-dire, ma question, c'est pas pourquoi on a besoin du dévoilement, ça on a compris. Mais pourquoi on a besoin de 10 paroles ? Bah, Dieu, il ne peut pas se dévoiler en une grosse parole.
Oui, mais le problème...
Attends. Oui ? Exactement. Par rapport aux 10 paroles de la création. Pas shoot. Il se trouve qu'il y a aussi les 10 plaies, mais l'origine de la base, c'est les 10 paroles de la création. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Mais attention, comment tu sais qu'il y a 10 paroles dans la création ? Parce que Pirkei Avot, il t'a dit ? Il y a marqué dans Pirkei Avot, Ve'asara, Ma'amorot, Nivra Olam, chapitre 5, Mishnah Aleph.
Peut-être par rapport au
Diblé,
non ?
Non, 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 non. Il y a marqué dans la Torah
Elohim.
Vayomer Elohim. Dans la création, dans Bereshit. Oui. Et combien de fois il y a marqué
10 fois.
Ben voilà, il y a marqué 9 fois. Il y a marqué 9 fois. Il n'y a pas marqué 10 fois, Vayomer Elohim. Il y a marqué Vayomer Elohim Yihom, Vayomer Yiraki. 9 fois. Comment on fait? Tom, Asraza, ils nous disent, non mais, t'inquiète pas, Bereshit, Name Ma'amar Hu. C'est aussi une parole. C'est juste que, à l'époque de Bereshit, il ne peut pas dire Vayomer, parce que Vayomer induit que tu parles à quelqu'un. Or, avant la création, il n'y a personne à qui parler, donc il ne peut pas dire Vayomer. Et là, Bereshit, c'est aussi une parole. Donc on a 10 paroles, mais on est obligé de voir la différence qu'il y a entre Bereshit et les 9 autres. Donc, il va falloir mettre aussi en surbrillance une différence entre le premier des Aseret HaDibrot et les 9 autres. Ok, ça on va le faire. Mais on a compris que donc, comme il y a Asara Ma'amarot, il faut également Aseret HaDibrot. D'accord ? Vous avez dit ces trucs. Mais sauf qu'on l'a dit en français, et en français ça passe. Parce qu'on a dit il y a 10 paroles qui ont créé le monde, donc on a besoin de 10 paroles dans les 10 commandements. Mais sauf que voilà, dans l'hébreu on dit Be'asara Ma'amarot, Dieu il a créé le monde, et il s'est révélé Be'aseret HaDibrot. C'est pas la même chose, un Ma'amar et une Diber. Ma'amar, ça cache Dieu. Puisque par Asara Ma'amarot, il a créé le monde. Or, regardez le monde autour de vous, ben on ne voit pas Dieu, sauf toi. Mais les gens normaux, qui sont moins élevés que toi, non mais j'y ai repensé à ce que tu m'as dit et peut-être que j'ai mal expliqué. Et je te le redis maintenant. Le fait que quand toi tu vois autour de toi et que tu arrives à y voir le signe, la main de Dieu, tout ce que tu veux, c'est parce que tu as grandi dans une culture, pas que au Beit HaMidrash, mais dans une ambiance dans laquelle on t'a dit que celui qui a créé le monde, même si on ne te l'a pas dit à toi directement, tu fais partie d'un monde dans lequel c'est built-in, c'est mouvené, ça fait partie du package de ton éducation, que Dieu il a créé le monde et que Dieu il gère le monde. Même si c'est pour le rejeter, même si les gens ils veulent ne plus être religieux, ça fait partie du concept même de la création. Et donc à partir du moment où tu sais ça, et ben alors tu peux rattacher ce que tu vois à Kadosh Baruch Hu. Mais si tu ne viens pas de ce milieu-là, en Chine, on ne rattache pas la nature à Dieu. Dans les îles de Papouasie orientale, on ne rattache pas la création, le lever de soleil à Dieu. Parce que la massorette du Tanakh, elle n'est pas là-bas. Ok, mais toi, oui. Donc tout ça pour dire que la nature que Dieu a créée, elle est super, mais elle le masque. Donc les Ma'amarot cachent Dieu. Il faut donc des 10 brotes pour le dévoiler. Comme il s'est caché par 10 Ma'amarot, il y a eu donc 10 écrans placés, il faut percer 10 trous. Donc il faut 10 paroles. Maintenant qu'on a compris ça, alors on comprend cette phrase qui est mentionnée dans le Talmud, qui nous dit « Kol ha-omer davar b'shem omro, mevi geula la'olam » Tout celui qui transforme le Ma'amar en Diber à Omer Davar. Omer, ça vient de Ma'amar, Davar, ça vient de Dibour. Mevi Geoula Laolam. Parce qu'il dévoile Dieu. D'accord ? Ok ! Bon, bah alors on est bon. On peut y aller maintenant. On a dit, l'objectif numéro 1 du dévoilement, c'était quoi ? D'authentifier la shlichut de Moshe. Vous vous rappelez, il dit Vaishma a'am bedabri imar vegam becha yaminu leolam. C'était pour ça tout le projet. C'est-à-dire, donc, la première des 10 commandements, des 10 Aseret HaDibrot, est là pour authentifier Moshe. Pour dire que c'est bel et bien lui, par lui, que ça va passer.
La première, c'est ça.
Eh ouais. Tu vas penser laquelle ? Oui, mais on a dit, le projet des 10 commandements, à la base, c'est pour dire que Zebeseder, c'est vrai que je parle à Moshe.
Oui, mais ça va plus loin que ça.
Quand Dieu il a dit à Moshe, pourquoi il allait se dévoiler ? Il lui a dit, Va'avour yishma ha'am bedabri imach ve'gam bechay aminu le'olam. Pour que le peuple m'entende te parler et qu'ils aient donc la emouna en toi tout le temps. C'est ça le programme. Donc, il faut bien le réaliser le programme. Ce qui veut dire que le premier des 10 commandements, c'est ça qui vient répondre. Et là, tu me dis, c'est bizarre, c'est pas du tout ce qui semble avoir marqué. Bon, alors qu'est-ce qui a marqué ? Anochi Hashem Elohecha Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim.
Je trouve que c'est impérieux qu'il ait cette phrase, Dieu aurait dû dire, et voici, je suis ton Dieu qui a créé le monde des lumières.
Ce que tu dis, c'est une très bonne question qui est posée par le Talmud. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde ?
Ou qui t'a créé ?
Ça, qui a fait la création. Réponse, parce que personne n'était là pour en témoigner. Et donc, pour...
Nos âmes,
c'était pas là non plus quand Dieu il a créé le monde. Bah non, au moment où il y a eu Bereshit, ton âme, elle était encore à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu, elle n'était pas là.
J'ai entendu de la part d'Arab à Paris, avant de faire mon avia, qui a dit que nos âmes étaient présentes.
Où ?
Lors de la révélation du Mont Sinaï. Nous, on n'y était pas, mais nos âmes...
Mais j'entends ce que tu dis, mais c'est pas ce que tu dis. Tu dis que Dieu, il aurait dû se dévoiler en tant que celui qui a créé le monde. Je dis qu'au moment de la création du monde, il n'y avait personne. Donc on ne peut pas témoigner du fait que c'est vrai qu'il a créé le monde, on n'était pas là. Donc il utilise... Eh bien avec plaisir. Donc il utilise un exemple de choses qu'il a faites, que les gens puissent en témoigner. C'est-à-dire, donc ça c'est la première chose. Mais regardez comment est construit le verset. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Ça ressemble comme deux gouttes d'eau au niveau de la construction grammaticale de la phrase, comme si Dieu avait dit « Salut, je suis Yossi, tu te rappelles, on s'est vu hier au chouk. » C'est-à-dire que Dieu se révèle à moi par rapport à une référence qui s'est passée entre nous deux dans le passé. Ok ? Maintenant, si je t'ai rencontré Yossi hier au chouk et que je te revois aujourd'hui, est-ce qu'il y a un doute si tu vas me reconnaître ou pas ?
Non.
Ben non, a priori non.
Ça dépend.
Si on s'est vu hier.
Oui, mais là c'est Dieu.
Si tu es déguisé.
Ah ! Donc ça veut dire que tu dis, si j'ai besoin de te dire, hey, tu vois, c'est moi. C'est que la façon dont j'apparais à toi maintenant est différente de la façon dont je t'ai apparu hier. Tu dis, il s'est déguisé. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous dit Rashi, pourquoi est-ce que Dieu il dit, je suis l'Éternel ton Dieu que tu as fait sortir d'Égypte, au-delà du fait qu'ils peuvent en témoigner ? Ils disent, parce que la façon dont tu m'as vu te libérer d'Égypte, par Moshé, mais c'est quand même moi qui ai fait du boulot, les diplés, la mer Rouge.
C'est vrai, ils ont vu
Moshé. Non, ils n'ont pas vu que Moshé, tu as raison. Mais ils ont vu que Moshé, il était Avdo, chez le Michéou. Aminu Ba'Hashem ou Moshe Avdo dans la Shirat Hayam. Parce qu'ils ont vu, et Rashi nous dit, Biglal Shenigla Alehem Alayam Ke Gibor Milchama. C'est ce qu'on a dit dans la Shirat Hayam. Hashem Ish Milchama. C'est-à-dire qu'on a vu Dieu, comment il s'est dévoilé à nous dans la sortie d'Égypte, comme un Ramatkal, comme un chef d'état-major, avec des muscles Chaval Al-Azman. Aval Po Nigla Elenu Ke Zaken Male Rachamim. C'est dévoilé à nous ici dans le Mont Sinaï comme un rocher Shiva. Shema Shne Elohuyot Yesh. T'aurais pu penser qu'il y a deux dieux. Il y a le dieu guerrier et il y a le dieu rocher Shiva. Aznan, sache que Ani Asherotseticha Meretz Mitzrayim Va'alayam. C'est moi qui te donne la Torah maintenant. C'est moi qui me dévoile à toi maintenant. Donc ça veut dire que Yesh Ichud Amidot, Gam Givor, Gam Givor Milchama, et Gam Zaken Malachamim, Zehani. En quoi ça nous fait authentifier Moshe ? Eh bien parce que qui ai-je choisi, moi le Givor Milchama, pour faire le boulot de la sortie d'Égypte ? Moshe. Et ça, vous avez vu que ça a marché. Moshe, il s'est révélé comme étant un très très bon libérateur d'Égypte. Eh bien, Ani, celui qui donne maintenant le dévoilement, la Torah, je choisis également Moshe. De la même façon qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le même qui sort d'Égypte et c'est le même qui donne la Torah, eh bien il n'y a qu'un seul Moshe qui remplit le travail c'est celui qui vous a sorti d'Égypte et celui qui donne la Torah. Parce que, oui.
Pourquoi c'est pas dit explicitement?
Voilà, c'est ça.
Ben voilà, je viens de te l'expliquer.
Explicitement dans la Torah.
Pourquoi c'est pas dit explicitement dans la Torah? Qu'est-ce qui était pas clair dans ce que je viens d'expliquer?
Le rôle de Moshe.
Là, pourquoi? T'as pas compris ce que je viens de dire?
J'ai compris.
Il y a fait. Maintenant, toi et moi, vu qu'on vit 3500 ans après les événements, ça c'est la première chose qui nous fait qu'on est obligé de donner une explication. Il y a une autre chose qui fait qu'on est obligé de donner une explication, c'est que toi et moi, on a un problème, on ne sait pas ce que c'est que le révélement prophétique. Pour eux, c'est une évidence que je viens de te dire. Il faut bien comprendre une chose. Le fait qu'on soit obligé d'expliquer les versets de la Torah, les versets du Tanakh en général, c'est parce que nous vivons dans un monde culturel fondamentalement différent de celui dont les gens qui sont les héros de l'histoire vivent. Eux vivent dans une époque où le dévoilement divin est palpable et où la rencontre avec le Créateur est quelque chose qui est normal. Toi et moi, non. Donc ça veut dire qu'il y a des dimensions qui sont une évidence pour eux, qui ne le sont pas pour nous. Exemple, Pashut. Si, imagine quelqu'un qui ne connaît pas du tout, machin, il vient de faire son alia, il ne connaît rien du tout, et il a vu qu'il a tapé sur Internet « synagogue francophone à Jérusalem », on l'a amené à Emouna, et le Rav Benisha, il n'était pas là, il a demandé « est-ce que tu peux l'accueillir Shabbat ?» Et il vient chez toi Shabbat. Et il te dit « bon, écoute, j'ai entendu parler du judaïsme, c'est intéressant, dis-moi, à quoi il ressemble Dieu ?» Qu'est-ce que tu lui réponds? C'est une vraie question qui m'a déjà été posée. Hein. Il m'a dit, toi, t'es un rabbin? Ouais, ouais. Ah bah, il ressemble à quoi, Dieu? Il dit, bah, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu, perso. Peut-être que t'as une autre réponse ou toi aussi, je ne sais pas.
Moi non plus,
je ne
l'ai pas vu.
Voilà. Pourtant, non, mais non seulement tu ne l'as pas vu, mais tu peux même lui expliquer que théologiquement parlant, judaïquement parlant, on ne peut pas le voir parce que le Irania Adam Vachai, Velo Echoliot, et tout. Et pourtant, Yirmiyahu Hanavi, il dit « Ra'iti et Hashem Yoshev al Kise Ram Venissa ». Et quoi, il n'a pas étudié Torah de Moshe que Lo Irani Adam Vachai? Et j'ai étudié, mais qu'est-ce que je te dis? Zani Ra'iti. Comment j'explique ça? J'en sais rien.
Il fait des exceptions.
Peut-être. J'en sais rien. Mais le fait est que ou Roé, tu peux pas lui dire non, tu vois pas.
Comme lui l'a vu, c'est pas forcément comme un autre.
C'est sûr. C'est sûr que c'est pas comme ça. Bien sûr. Mais il n'empêche que son expérience, elle est vraie. Seulement, la façon dont toi tu la comprends, c'est ma choix. Ok?
Comme
Roé Metakolot. Comme Roé Metakolot, exactement. Et ça, je sais pas ce que c'est que ce verset, mais tu as raison. C'est ça?
Mais là, on explique tout.
Oui, on essaye.
Oui, on essaye.
Pas facile.
Il n'y a pas une explication de ce qu'ils ont perçu?
Bien sûr.
Il y a, alors?
Ben, c'est ce que je viens de te dire.
Oui.
Ils ont perçu...
Ils ont perçu...
Zaken Malé Rachamim, un Rosh Yeshiva. Ils ont vu un truc qui ressemblait au Rav Benishai. Barbe blanche, beau gosse, machin. Okay. Par contre, quand ils étaient sur la mer, ils ont vu un truc avec un béret comme ça de côté, un couteau dans les dents, et le flétop ici, et le tavor dans l'autre main, et il avait les trois grenades dans la bouche.
Avec le couteau, ça fait beaucoup.
Ouais, bah ça fait une grande bouche.
Non, mais alors ça veut
dire... Ah, t'as même pas que pec dans la bouche d'un Kadosh Baruch Hu.
Ça veut dire que Dieu...
Attends, si Rambo, il peut...
Je dis que c'est pas pratique.
c'est ça. Non, non,
non,
non, tu reviens sur notre problématique de Shabbat, tu te fais pas ton idée de Dieu. Ce qu'il te montre, il te montre. Tu peux pas inventer. Donc c'est pas chacun, il se fait son idée.
Non, mais la dernière fois, tu avais dit...
Ce qu'il montre, il montre.
L'imagination.
Ah, mais là, j'ai pas parlé de ça, là, je parlais du dévoilement.
Oui, c'est...
Dans le dévoilement, j'ai vu quelque chose qui m'a montré. C'est pas l'imagination.
Okay.
Ce que moi, j'ai aujourd'hui... Quand je dis Elohenu velo avotenu, je me représente quelque chose que je sais être faux. Mais lorsque Dieu se dévoile à moi et qu'il me montre quelque chose, ben il me montre quelque chose. C'est ça? Donc, ben dans le premier verset, on vient d'authentifier le fait que Dieu a bel et bien choisi Moshe pas seulement pour nous sortir d'Égypte, mais également pour nous transmettre le dévoilement. Sauf qu'une fois qu'on a dit cela, pourquoi est-ce qu'on a besoin des 9 autres commandements, 10 brotes? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Chazak b'ruch.